bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans un autre temps, celui du générique du Grand Moudre d'il y a quelques mois. Nous sommes vendredi, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Il suffisait donc de programmer une émission sur la canicule pour que les températures baissent. Météo France nous apprend cet après-midi qu'il ne reste plus que 7 départements en vigilance orange en région Rhône-Alpes. Mercredi aura été la journée la plus chaude enregistrée en France pour un mois de juin avec une température moyenne de 26,4 degrés. À force d'être battus, de tels records finissent par passer inaperçus. Il fait chaud et les épisodes caniculaires sont appelés à se répéter à l'avenir. La lutte contre le changement climatique est une priorité, mais lutter contre les éléments ne suffit pas. Il faut aussi apprendre à s'adapter. Un enjeu particulièrement important pour les grandes villes, ce sont elles et leurs habitants qui subissent le plus les périodes de canicule. Et quand il fait très chaud, mieux vaut habiter en dehors de Paris, Strasbourg ou Grenoble qu'intramuros. La densité urbaine et démographique fait monter les températures, alors comment les orienter à la baisse? Et peut-on climatiser les villes? Eh bien, c'est notre sujet du jour. Et pour discuter de ce sujet, trois invités, à commencer par vous, Elsa Mesquel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous faites partie de l'équipe du plan de lutte et d'adaptation au changement climatique de la ville de Paris, après avoir été chargée d'études à l'Agence parisienne du climat. Pour discuter avec vous, deux invités qui sont dans d'autres villes que Paris, Céline Philips. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes à Nice, vous êtes en duplex des studios de France Bleu. Vous travaillez au service climat de l'ADEME, qui est l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Vous y animez le secteur adaptation au changement climatique. Et puis notre troisième invité est à Toulouse, lui aussi dans les studios de France Bleu, c'est Valérie Masson. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes météorologue et vous êtes directeur de recherche de l'équipe climat de Météo France à Toulouse. Vous d'ailleurs, Valérie Masson, que je voulais poser la première question parce que je suis parti du postulat que quand il faisait très chaud, c'était particulièrement vrai dans les grandes villes plutôt que dans les périphéries, que dans les zones rurales. Est-ce que c'est vrai? La canicule est toujours plus forte en ville?
Oui, c'est vrai. La canicule est plus forte en ville. Donc, principalement, d'ailleurs, la nuit. Donc, on a battu dernièrement des records de température à Paris, des records de mois de juin, qui n'avaient pas été enregistrés depuis que les mesures météo existent. Voilà, donc ça, c'était la nuit dernière. Donc, il fait beaucoup plus chaud en ville qu'à la campagne. Donc, toujours hier, il y avait à peu près, entre la mesure dans le parc Montsouris, qui est dans Paris Intramuros, et la campagne, plus de 7 degrés d'écart.
Elsa Mesquel, c'est vous qui travaillez justement pour la ville de Paris. Vous partagez ce constat, c'est-à-dire en période de canicule, il fait moins chaud à l'extérieur des portes de Paris qu'intramuros?
Oui, complètement. En fait, il y a un phénomène qui est permanent sur les grandes villes qu'on appelle l'îlot de chaleur urbain. Et en fait, c'est quelque chose qu'on observe toute l'année et qui va être vraiment renforcé en période de canicule. Et c'est effectivement ce que vient de décrire Valérie, c'est qu'on a des différences en fait jusqu'à 7, voire jusqu'à 10 degrés en période de canicule entre le centre de Paris et puis des zones un peu plus périphériques en Île-de-France. Mais ce phénomène-là, effectivement, on l'observe toute l'année et toute l'année, on a en moyenne 2 à 3 degrés de différence, 2 à 3 degrés de plus au centre de Paris que sur la périphérie de la région Île-de-France.
Puisqu'on a la chance d'avoir un panel de villes françaises grâce à vous trois ce soir, Céline Philips, vous qui êtes à Nice, est-ce qu'on peut dire que c'est valable vraiment pour toutes les grandes villes? Pour moi, alors qui ne connais pas très bien Nice, mais j'ai plutôt l'image alors, d'une grande ville, mais qui, du fait qu'elle est en bord de mer, qu'il y a des petites ruelles, subit peut-être moins cette règle de l'îlot de chaleur urbain, mais je me trompe peut-être. Céline Philips.
Oui, je pense que... Oui, bonsoir. Ici, les Niçois, je pense, s'accorderaient pour dire que il fait bon vivre à Nice, même quand il fait très très chaud. En effet, la ville a été conçue d'une telle manière à ce que on optimise la circulation d'air venant de la mer. Donc, même s'il y a des quartiers où la nuit, la température quand même reste plus élevée que dans les campagnes environnantes, donc on reste quand même. Donc, il y a toujours un îlot de chaleur urbain ici à Nice. Néanmoins, il est peut-être plus tenable parce que les quartiers traditionnels ont été conçus pour rafraîchir la ville le plus possible.
Et on va peut-être voir justement dans cette émission en quoi des expériences de certaines villes en France ou à l'étranger peuvent être aussi intéressantes pour d'autres qui ont moins l'habitude de ce genre d'épisodes de grande chaleur, puisque ce terme d'îlot de chaleur urbain a été utilisé à deux reprises. Valérie Masson, vous ne l'avez pas encore employé, mais je pense que vous serez d'accord pour l'utiliser également. Comment est-ce qu'on explique le fait qu'en ville, la chaleur accumulée le jour a du mal à s'évacuer la nuit? Est-ce que c'est parce que la densité urbaine fait que la chaleur a du mal à s'échapper?
Je voudrais d'abord tordre le cou à deux idées préconçues. D'abord, ce n'est pas souvent on entend dire que c'est le gaz carbonique et le CO2 qui réchauffe la ville. Et donc ce n'est pas le cas. Ça, c'est vrai pour le réchauffement global donc de la planète à l'échelle du siècle. Mais un îlot de chaleur urbain, ça peut exister une journée, puis le lendemain, il a disparu, et le surlendemain, il revient. C'est des phénomènes beaucoup plus rapides, donc ils ne sont pas du tout liés au gaz carbonique. Et c'est pas non plus, l'îlot de chaleur urbain n'est pas non plus lié à la pollution, même si, en général, quand il y a de l'îlot de chaleur urbain, il y a aussi de la pollution, parce que la situation météorologique le favorise. Donc en fait, l'explication est assez paradoxale. Voilà. Donc cette chaleur, d'où est-ce qu'elle vient? Sachant qu'il fait plus chaud, c'est l'îlot de chaleur urbain est surtout plus chaud la nuit, donc avec 8 degrés, 10 degrés d'écart pour Paris, plutôt 5 degrés d'écart pour une ville comme Toulouse. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on a cette différente température la nuit? C'est à cause du soleil. Et le soleil, comme chacun sait, il brille le jour.
Ben oui, c'est alors du coup, comment est-ce qu'on explique que la nuit, ça reste?
Voilà. Et donc en fait, le soleil, pendant la journée, il va chauffer les briques, il va chauffer le bitume, il va chauffer les tuiles. Tous les matériaux dont on s'est servi depuis des siècles et des siècles pour construire les villes, en fait, ce sont des matériaux qui emmagasinent facilement la chaleur pendant la journée. Donc, en soirée, mettez la main sur un mur qui vient d'être exposé au soleil, vous sentez bien qu'il a chauffé. Il y a de la chaleur dans ces matériaux. Et donc, pendant la nuit, c'est toute cette chaleur qui est rendue à l'atmosphère et qui empêche l'air de se refroidir.
J'ai relevé une phrase d'un urbaniste qui s'appelle Erwan Cordeau qui dit ceci: si l'on souffre plus de la chaleur en ville, c'est parce qu'on a construit des villes très minérales. Est-ce que, Elsa Mesquel, Paris, par exemple, est une ville très minérale, c'est-à-dire peu végétale? Ou pas assez?
Elle est végétale quand même. Et effectivement, on a encore des objectifs d'amélioration de cette part du végétal. Pour autant, effectivement, Paris est une ville très densément construite. Et effectivement, ça amène cette problématique d'accumulation de chaleur et qui fait que pendant la nuit, en fait, cette chaleur est restituée dans l'atmosphère et il se crée cette bulle de chaleur au-dessus de Paris qui explique ces différences et qui explique ces fortes différences si on prend juste l'exemple de la canicule actuelle. Mercredi dernier, en fait, pendant la nuit, alors que les températures redescendaient du côté de Fontainebleau ou de Cergy-Pontoise à 17 degrés, à Paris, on restait aux alentours de 23-24 degrés. C'est ça qui explique effectivement cette part de minéral qui accumule beaucoup plus de chaleur, alors que le végétal, lui, utilise le rayonnement et dissipe la chaleur pendant la nuit.
Est-ce qu'on sait d'ailleurs si c'est aussi une ville qui a été construite pour ça, c'est-à-dire pour que ces murs retiennent la chaleur, parce que à Paris, on souffrait peut-être davantage du froid l'hiver que de la chaleur l'été, Elsa Mesquel?
Absolument. Précédemment, on a construit, on a aménagé la ville. Certains quartiers sont très compacts pour se prémunir du froid, pour conserver cette chaleur. Effectivement, c'était la problématique majeure. Aujourd'hui, on est sur un basculement. Aujourd'hui, on prend en compte des problématiques de confort d'été, de confort estival. Et on est sur un aménagement beaucoup plus aéré, sur des écoquartiers aujourd'hui qui laissent beaucoup plus de place au végétal et qui laissent passer cette air, en fait, et puis permettent davantage de circulation d'air et de libération de la chaleur.
Céline Philips, ce basculement, cette nouvelle façon d'appréhender la question climatique, mais plutôt du point de vue des épisodes caniculaires, est-ce que c'est une prise de conscience récente, notamment du côté de la communauté scientifique? On pense forcément dans le grand public à l'été 2003, avec cette très forte période de canicule. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un avant et un après aussi pour justement gérer ces périodes de chaleur dans les grandes villes?
Oui, certainement, il y a une prise de conscience au niveau européen, pas seulement en France. Donc, ça reste l'année de référence dès qu'on parle de canicule, 2003. Donc du coup, les scientifiques, on a de la chance en France d'ailleurs d'avoir des très très bonnes équipes qui donc ont des outils de pointe pour simuler le climat des villes avec leurs spécificités, avec justement ces matériaux et cette morphologie bien spécifique de la ville pour mieux identifier les points chauds. Et donc, du coup, on commence petit à petit à mieux comprendre tout ce que Valérie Masson vient de décrire. Et par ailleurs, donc les pouvoirs publics, eux, n'ont pas attendu ces nouvelles connaissances scientifiques pour agir. Donc, je pense que maintenant, tout le monde est familier des plans canicules qui sont déployés chaque été. Voilà, il y a toute une organisation à la fois au niveau de l'État, du préfet, des collectivités territoriales. Ici à Nice, d'ailleurs, il y a même donc la ville s'appuie non seulement sur le CCAS, donc pour identifier les personnes fragiles, mais il y a aussi tout un réseau de bénévoles formés pour que quand il y a une canicule, ça y est, on surveille de près 2000 personnes sensibles, ils sont contactés régulièrement, on leur rend visite. Donc c'est un vrai défi pour la ville de Nice, qui compte presque 10 000 personnes âgées. Et donc, il y a eu tout un travail d'identification des personnes les plus fragiles. C'est un travail permanent. Et donc, ils ont pu retester pendant les différents canicules, l'efficacité de ce dispositif. Et puis, c'est vrai que grâce au bénévolat, donc, ils ont réussi, du coup, à protéger les personnes les plus sensibles.
Alors vous avez raison, Céline Philips, de mettre l'accent sur la solidarité, parce qu'on peut dire que c'est une façon pour les communautés urbaines de s'adapter justement à ces épisodes de forte chaleur. Pour rester peut-être justement sur cette question de l'adaptation plus ou moins spontanée, mais quand on est, si on regarde du côté des individus et peut-être moins des autorités et des collectivités, Valérie Masson, qu'est-ce qu'on peut constater ? Est-ce qu'il y a par exemple des réflexes qui n'existaient pas autrefois et qui peuvent commencer à s'instaurer, comme par exemple, on en parlait avant d'entrer dans ce studio avec Elsa Mesquel, le fait de, bah, tout simplement, la journée, fermer ses volets.
En fait, fermer ses volets, oui, c'est une façon de garder la fraîcheur à l'intérieur de son logement. Et c'est pas une pratique qui est récente, c'est une pratique qui, dans les pays du Sud, est très ancienne, ou dans les villes sur le bord de la Méditerranée. Voilà, c'est une pratique même dans le sud de la France, de fermer ses volets en été pour éviter la surchauffe à l'intérieur.
À condition d'en avoir, bien sûr.
À condition d'en avoir. Et c'est là que se pose la question pour plutôt les pays du Nord, par exemple en Angleterre ou les pays scandinaves, qui, eux, n'ont pas de volets dans leur construction. Et donc, dans ce cas-là, on voit qu'il y a un problème fondamental dans l'architecture pour le confort d'été, pour ces villes-là.
Peut-on climatiser les villes ? Ça pourrait commencer, par exemple, dans le fait d'équiper massivement les immeubles parisiens en volets. Vous me disiez, Elsa Mesquel, moi, ce que vous constatiez justement en vous baladant comme ça dans les rues de Paris là ces derniers jours, que vous aviez vu qu'il y avait beaucoup d'habitats où les fenêtres n'étaient pas ouvertes, mais enfin, en tout cas, il n'y avait pas de volets fermés.
Si, les fenêtres ouvertes aussi.
Ah, les fenêtres ouvertes aussi, oui. Alors effectivement, oui. Pour faire rentrer la chaleur, il n'y a pas mieux.
Absolument, on a la même problématique à Paris, il y a certains immeubles qui n'ont pas de volets aussi, ça n'était pas sur des très anciens immeubles, effectivement il y a des endroits où il n'y a pas de volets, mais même quand on en a en fait aujourd'hui c'est des réflexes qu'en tant que Parisien on n'a pas forcément en fait. Il faudrait justement passer davantage ces messages, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, ces réflexes pour ralentir l'entrée de la chaleur à l'intérieur des logements et pour contenir cette fraîcheur et réapprendre ou apprendre aux gens effectivement à fermer ces volets pendant la journée, à ouvrir et à ventiler au contraire la nuit. Voilà ce genre de réflexes qu'aujourd'hui nous n'avons pas forcément.
Donc peut-être faire un peu de la pédagogie, mais j'ai envie de vous dire, moi Elsa Mesquel, finalement c'est pas grave si je n'ai pas de volets, parce qu'il se trouve que je viens de m'équiper d'un climatiseur et que chez moi, la température elle est tout à fait régulée, même en période de forte canicule. La climatisation, est-ce que c'est, puisque je rappelle la question qu'on pose ce soir, peut-on climatiser les villes ? Est-ce que la climatisation, elle fait partie de la solution ?
Alors nous, on dirait pas peut-on climatiser les villes, on dirait plutôt peut-on rafraîchir les villes. Et effectivement, c'est quelque chose que l'on regarde beaucoup, que l'on surveille aujourd'hui, que l'on anticipe, c'est ce développement massif de la climatisation individuelle, parce que ça peut être une fausse bonne idée, en fait. Aujourd'hui, quand vous climatisez à 25 degrés à l'intérieur de votre logement, c'est de l'air qui est à plus de 31 degrés qui ressort à l'extérieur, en façade, donc qui va générer aussi de la chaleur pour votre voisin, qui globalement va générer de la chaleur pour la ville. Et si tout le monde s'équipe de cette façon-là, on va augmenter les températures, on va renforcer cet effet de chaleur, cet effet d'îlot de chaleur urbain, cet effet de bulle de chaleur sur la ville. Donc clairement, on n'est pas favorable à ce développement massif de climatisation. En revanche, il est absolument nécessaire d'avoir des systèmes de rafraîchissement, notamment dans certains bâtiments. Et à la ville de Paris, on a cette chance d'avoir un réseau de froid urbain. Et un réseau de froid sur lequel aujourd'hui des grands magasins sont branchés, sur lequel les hôpitaux de Paris sont branchés, et qui permettent d'avoir en fait une alimentation, de rafraîchir les bâtiments avec une alimentation en eau glacée, et avoir ce système commun à plusieurs bâtiments, beaucoup plus efficace, et qui peut aussi éviter des problématiques de légionellose par exemple dans les hôpitaux. Voilà, c'est des solutions alternatives qui sont tout à fait à considérer.
Valérie Masson, sur ce phénomène qu'évoquait Elsa Mesquel, c'est-à-dire si on équipe massivement les logements en climatiseurs, la fraîcheur que ça procure à l'intérieur, ça se traduit aussi par une chaleur supplémentaire à l'extérieur. Est-ce qu'on arrive justement à mesurer l'impact de la climatisation sur le réchauffement des villes dans ces périodes de forte chaleur?
Oui, on arrive à l'estimer. Donc en fait, c'est vrai que la chaleur qu'on prend dedans, on la rejette dehors. Et donc, avec des outils de simulation numérique, des logiciels, on peut estimer l'impact de la climatisation sur la température extérieure. C'est ce qu'on fait, par exemple, des Japonais sur une étude sur Tokyo, donc qui est quand même une mégapole de plus de 20 millions d'habitants, où donc ils ont estimé que l'utilisation de la climatisation augmente les températures de plus de 1 degré. Voilà, donc ça renforce encore plus l'îlot de chaleur, alors que même que Tokyo est une ville portuaire avec une brise de mer qui rafraîchit quand même relativement bien la ville. Donc, dans la capitale française, par exemple à Paris, on a estimé que l'augmentation de la température liée à un usage massif de la climatisation d'ici 10 ou 20 ans pourrait augmenter la température lors des canicules de 2 degrés.
De 2 degrés, ah oui, c'est quand même assez
supplémentaire.
Alors non seulement ça augmente la température extérieure, mais en plus, alors Céline Philips, vous qui faites partie de l'ADEME, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, on peut dire qu'en plus la climatisation, en termes de justement de maîtrise de la consommation d'énergie, là non plus, c'est pas la meilleure des idées à avoir sans doute.
En effet, je dois donc... une petite anecdote, quand j'ai commencé à travailler sur l'adaptation au changement climatique en 2010, donc le terme climatisation, c'était vraiment un très gros mot à l'ADEME, il n'était jamais prononcé.
Pourquoi ?
Et aujourd'hui, parce que justement ça consomme de l'énergie, et ça fait plus de 30 ans qu'à l'ADEME maintenant on lutte pour maîtriser la consommation d'énergie et puis aussi pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et pour réduire donc aussi les bruits liés à ces technologies. Et donc du coup, c'était vraiment pas une solution acceptable. Il se trouve que donc depuis 2 ans maintenant, donc suite à l'impulsion de notre ancienne ministre Madame Royal, donc on a lancé un programme de recherche sur la climatisation du futur qui cherche des alternatives technologiques moins polluantes. Parce que, bien sûr, on reconnaît qu'il y a des populations sensibles qui auront toujours besoin d'avoir cette possibilité de vivre dans des températures plus clémentes. Et je vais me permettre de faire un petit aparté sur les définitions. Pourquoi Madame Mesquel avait dit que elle préfère parler de rafraîchissement. Alors, dans notre jargon, la climatisation, c'est une technologie qui permet d'atteindre une température de consigne. Et donc, ça nécessite d'avoir un dispositif qui est alimenté par une source d'énergie. Et donc, c'est très différent que tout simplement parler de rafraîchir, où là, on cherche à abaisser la température de quelques degrés, et ce qui est une solution qui peut tout à fait être faite sans consommer de l'énergie.
Alors justement, essayons de voir quelles peuvent être ces solutions qui permettent un rafraîchissement sans consommer de l'énergie. Il y a un terme qui revient beaucoup quand on commence à s'intéresser à ces questions, ce qui a été mon cas cette semaine pour préparer cette émission, c'est la végétalisation. La végétalisation, peut-être alors déjà Elsa Mesquel, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est, en quoi ça consiste et est-ce qu'il y a plusieurs façons de végétaliser les villes ?
Absolument. L'idée de la végétalisation, c'est de réintroduire la nature dans la ville. Ça peut être effectivement sur de la pleine terre, installer des pelouses, installer des arbres, mais ça peut également être en façade ou en toiture, développer des façades et toitures végétalisées.
En quoi c'est intéressant de végétaliser ? C'est-à-dire que ça retient davantage l'humidité, ça retient davantage la fraîcheur ? C'est quoi l'avantage de la végétalisation du point de vue des fortes températures ?
Alors il y a plusieurs avantages. Il y a d'abord un apport d'ombrage lorsqu'on parle d'arbres. Effectivement, si on protège du rayonnement lumineux, on protège aussi de la chaleur. Et puis il y a cet aspect, comme on le disait, antagoniste aux surfaces minérales qui vont, elles, capter cette chaleur et la conserver. Les espaces végétaux, au contraire, eux vont consommer le rayonnement solaire dans ce qu'on appelle la photosynthèse et évaporer de l'eau qui va donc consommer cette énergie et restituer de la chaleur pendant la nuit, va la libérer beaucoup plus rapidement que ces surfaces minérales.
Valérie Masson, est-ce qu'on a des exemples particulièrement vertueux de végétalisation urbaine qui pourraient nous servir ici en France ? Mais peut-être que ces exemples d'ailleurs existent déjà dans certaines villes françaises.
Voilà, donc il y a effectivement différents exemples. Ce qu'il convient de noter, c'est que la végétalisation, elle peut se mener à des échelles très très différentes, à l'échelle de l'ensemble d'une agglomération jusqu'à l'échelle d'un bâtiment. Donc un exemple de végétalisation à l'échelle de toute une agglomération, c'est la problématique de la ville de Stuttgart, qui est pionnière dans la problématique voilà, du rafraîchissement de la ville. Parce qu'en fait, Stuttgart, c'est une ville qui est dans une cuvette et c'est aussi la ville pionnière de l'industrie automobile, au moins en Allemagne, avec Mercedes et Porsche.
Et donc a priori, deux éléments relativement contraignants par rapport aux épisodes caniculaires.
Voilà. Et donc, la problématique qu'ils avaient dans les années 1930, c'était plutôt des problématiques de qualité de l'air dans la cuvette et ils voulaient ventiler donc la ville. Et donc, il y a un météorologue qui est maintenant dans la municipalité, embauché dans la municipalité de Stuttgart pour étudier voilà, quels sont les couloirs de ventilation qui permettent de ramener l'air frais des collines environnantes jusqu'en centre-ville. Et ça se traduit par exemple, des interdictions de construire des immeubles ou des immeubles trop hauts dans certains endroits, certains couloirs de ventilation, de façon à ce que ça ne freine pas l'air frais et l'air pur qui arrive en centre-ville.
Donc là, on va même au-delà de la végétalisation, c'est-à-dire que quand on réfléchit à l'aménagement urbain, ça suppose aussi de prendre des décisions, non pas de construire autrement, mais de ne pas construire parfois, du coup, Valérie Masson.
Voilà, de ne pas construire ou de construire autrement. C'est aussi une problématique qui est reprise dans les villes chinoises, les mégapoles chinoises actuelles, où il y a de gros problèmes aussi de pollution et d'îlots de chaleur urbains. Donc par exemple, à Hong Kong, il y a l'ancien aéroport qui était en centre-ville, a été donc déplacé donc sur une île un peu plus loin. Et donc, se posait la question de quoi reconstruire sur donc la piste de l'aéroport, avec la pression foncière qu'on imagine à Hong Kong. Et bien, la problématique, c'est qu'ils ont réussi, donc les aménageurs et la collectivité, à imposer qu'il n'y ait que des bâtiments relativement bas et relativement espacés sur l'ancienne piste de l'aéroport, de façon à ne pas bloquer l'air frais qui venait de la baie et qui rafraîchissait un petit peu les quartiers très très denses qui étaient derrière.
Alors ça, ce sont peut-être des réflexions qui sont possibles de mener quand on est dans des villes, soit qui sont relativement récentes, soit qui ont la possibilité de s'étendre. Mais s'agissant de Paris, Elsa Mesquel, où quand même la ville est particulièrement confinée. Enfin, je veux dire, elle ne s'étend pas, même si on parle du Grand Paris, mais on va pas aller particulièrement sur ce sujet. Mais s'agissant de Paris intramuros, avec en plus de fortes contraintes urbanistiques, aller au-delà de la végétalisation et repenser le type d'habitat, le type d'immeubles, c'est forcément plus restreint, j'imagine.
C'est un petit peu plus restreint. Pour autant, les zones d'aménagement qui sont aujourd'hui, qui viennent d'être livrées ou qui sont en cours de réflexion, je prendrai l'exemple de Clichy-Batignolles. C'est une zone au nord de Paris qui a été construite avec un espace vert de taille très importante au centre, en fait, et qui doit à terme se diffuser au sein du quartier. On essaie d'avoir des continuités. C'est ce genre de choses que l'on imagine à Paris, et on a des objectifs qui restent ambitieux. Aujourd'hui, l'objectif pour la ville de Paris, c'est d'avoir 30 hectares d'espace vert supplémentaire ouvert aux Parisiens. Et c'est également, comme on le disait tout à l'heure, donc de développer également les toitures et les façades végétalisées. C'est 100 hectares là que l'on vise de développement de ces toitures et de ces façades qui, si elles sont bien conçues et avec des réserves d'eau sur les toitures, en fait, qui permettent de retenir de l'eau, peuvent vraiment apporter de la fraîcheur et isoler le bâtiment, parce que c'est encore cette question-là de l'isolation. Et ça amène aussi au sujet de la rénovation des bâtiments. Aujourd'hui, il faut aussi qu'on les pense avec cet aspect confort d'été et pas uniquement en termes de chauffage. Donc il faut isoler aussi les bâtiments, il faut sensibiliser, il faut accompagner les Parisiens dans l'isolation de leurs bâtiments avec cette problématique de confort d'été. Et il y a des choses à faire, isolation des combles, isolation des façades sur cour, installation de protection solaire, il y a pas mal de choses à faire.
Vous avez évoqué la nécessité d'avoir des réserves d'eau. L'eau, c'est le nerf de la guerre en matière de végétalisation, j'imagine, Céline Philippe, c'est-à-dire soit avoir des espaces verts supplémentaires, soit végétaliser les façades ou les toits des immeubles. A priori, il y a besoin de beaucoup d'eau. Est-ce que ça ne demande pas une trop forte consommation de cette ressource, d'autant qu'avec le réchauffement climatique, c'est aussi une ressource qui a priori se raréfie. Comment est-ce qu'on résout cette équation? Est-ce que c'est, j'imagine que cette question-là, elle se pose aussi.
Ben oui, elle se pose, et du coup, c'est vrai que aujourd'hui, on peut encore envisager la végétalisation comme une solution pour rafraîchir nos quartiers. Par contre, c'est vrai que les villes de demain, peut-être il va falloir repenser et trouver encore d'autres types de solutions qui consomment moins d'eau. Donc les solutions pour garder l'eau au niveau de la ville, donc Madame Merkel les a évoquées. Donc on peut avoir des réserves d'eau en toiture.
C'est Madame Merkel, hein, Madame Merkel, voilà.
Non. Merkel, pardon, excusez-moi.
Voilà, j'en connais une autre donc, qui s'appelle Madame Merkel, mais elle n'est pas là aujourd'hui.
Oui, c'est pas le même registre. Et donc les toitures végétalisées, pareil. Donc c'est une solution qui permet à la fois d'isoler le bâtiment, mais aussi retenir de l'eau. Et il y a une autre solution aussi qui est souvent négligée, c'est le fait d'avoir de la pleine terre en ville aussi permet de stocker l'eau. Et donc du coup, parfois on parle de végétalisation en oubliant qu'il faut aussi le milieu naturel du végétal. Et quand il est présent et qu'il est il peut vivre sa vie naturellement, il peut retenir les eaux de pluie aussi. Et donc ça, tout ça facilite. Après l'évapotranspiration des quartiers et donc voilà contribue à une vie plus agréable. Donc je voulais juste mentionner en plus comme exemple français, donc la ville de Rouen qui avait été primée par l'ADEME en 2014 parce que leurs aménagements de la ZAC Luceline Rive de Seine justement combinaient tous ces différents dispositifs qui permettent de rafraîchir le quartier. Et aussi d'isoler les bâtiments avec des toitures et d'avoir donc une bonne circulation d'air. Donc on commence à avoir de plus en plus d'exemples de collectivités qui vraiment utilisent déjà les solutions dont on a connaissance aujourd'hui.
Et Elsa Mesquel veut réagir à ce que vous venez de dire. Elsa Mesquel.
Oui, sur la perméabilisation des sols, en fait, effectivement, c'est un sujet très très important. Il faut pouvoir laisser l'eau rentrer dans les sols. Il faut désimperméabiliser un certain nombre de surfaces, notamment à Paris. C'est aussi un des objectifs de retravailler les matériaux qui sont utilisés pour la voirie et le développement d'espaces verts aussi, qui vont pouvoir permettre à l'eau justement d'entrer dans ces sols. Et je voulais aussi mentionner en fait l'utilisation de cette eau non potable. À Paris, on a la chance d'avoir un double réseau pour l'eau potable et pour l'eau non potable. Aujourd'hui, on l'utilise pour nettoyer la voirie et pour arroser les espaces verts. Il faut avoir aussi cette logique-là d'utilisation de l'eau non potable pour ces usages de rafraîchissement.
L'eau, Valérie Masson en a beaucoup parlé là pour l'instant en termes de ressources, mais est-ce que la présence de l'eau, ça peut aussi contribuer à rafraîchir les villes, à être un facteur de thermorégulation, c'est-à-dire là où il y a de grands espaces d'eau, il fait moins chaud?
Ah, tout à fait. Et même, on peut, voilà, dans des terrasses de restaurants, souvent il y a des aspergeurs d'eau qui permettent aussi de rafraîchir, voilà, les clients qui prennent un verre, etc. Donc l'eau, c'est quand même la matière qui permet de rafraîchir la ville via la végétation ou via directement des fontaines ou des rivières ou des petits lacs.
Est-ce qu'on pourrait pousser l'utilisation de l'eau à faire comme ce qui existe, par exemple, au Japon, sous ce nom étrange d'Uchimizu?
Rafraîchir l'air, voilà le but de l'Uchimizu. Traditionnellement, il se pratique avec un récipient et une louche avec laquelle on va asperger le sol afin de faire baisser la température d'un ou deux degrés. L'uchimitsu se pratique pendant les périodes de très grande chaleur. Là, nous sommes en août et la température est d'environ 37 degrés. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Japonais ont un profond respect pour la nature. Ils n'utilisent que de l'eau usagée, comme de l'eau de piscine ou de vaisselle ou l'eau du bain, pour éviter le gaspillage.
Voilà, c'est l'extrait d'un petit blog de voyage d'un certain Rida Belak qui a fait une série de documentaires, c'est un amateur hein, je crois, sur ses vacances au Japon et qui parle donc de cette pratique de l'uchimitsu. Elsa Mesquel, est-ce qu'on pourrait imaginer dans une ville comme Paris d'asperger par exemple les trottoirs pour les rafraîchir avec peut-être cette difficulté de faire comprendre ce genre de pratique alors que pendant des années on nous a plutôt expliqué qu'il fallait justement par exemple, ne pas arroser sa pelouse parce que justement c'était du gaspillage.
Oui, d'ailleurs cette façon de faire a été expérimentée à Paris. On a choisi des rues, différentes expositions, différentes orientations dans lesquelles on a justement aspergé avec de l'eau pour voir l'effet que cela pouvait avoir et aussi voir justement la quantité d'eau qui était nécessaire pour faire baisser suffisamment les températures.
Et ça a été une expérience concluante ?
Alors, on a besoin encore de poursuivre cette expérimentation, cette recherche, ces études. Au Japon, il me semble qu'il y a des choses qui ont été aussi expérimentées à grande échelle, mais avec beaucoup d'eau. Nous, clairement, on est dans une logique où on souhaite utiliser le minimum d'eau nécessaire pour faire baisser la température. Donc, on est encore dans ces ajustements-là pour savoir quelle est la quantité que l'on peut utiliser. Et encore une fois, utiliser de l'eau non potable comme on peut le faire à Paris.
Alors, il y a la question de la végétalisation, là, il y a la question de l'utilisation de l'eau comme ressource ou comme élément de thermorégulation. Il y a tout un tas d'autres choses qui peuvent être faites, les petites astuces individuelles qui consistent à fermer les volets. Et puis, quand on rénove des rues, matériaux nouveaux, semble-t-il, qui existent. Céline Philips, toujours pour... je profite du fait que vous soyez à Nice. Moi, mes lointains souvenirs de la ville m'évoquent plutôt des rues où il n'y a pas forcément de l'asphalte, mais il y a notamment des rues pavées. En tout cas, est-ce que le revêtement, par exemple, du sol peut contribuer à atteindre cet objectif dont nous parlons ce soir, à savoir rafraîchir les villes?
Alors, je ne connais pas suffisamment les propriétés thermiques des revêtements des sols à Nice, donc je suis désolée, je ne peux pas répondre. Par contre, j'aimerais bien rebondir sur deux points, donc notamment sur...
Si vous voulez bien, juste peut-être, oui. Je vais voir si Elsa Mesquel et Valérie Masson peuvent me répondre sur cette question du revêtement, parce qu'on approche de la fin de l'émission et je ne voudrais pas qu'on l'oublie. Elsa Mesquel, sur cette question du revêtement, et après je reviens vers vous, hein, Céline Philips.
Oui, c'est primordial, la réflexion sur les matériaux. Au sein de la ville de Paris, on a un laboratoire des essais des matériaux qui justement a étudié les propriétés de différents revêtements. Clairement, l'asphalte va être beaucoup plus chaud, mais on a des réflexions sur du gazon, sur du stabilisé, sur des pavés. Les trams aujourd'hui, quand ils sont installés à Paris, on installe du gazon. C'est des choses qui vont permettre effectivement d'avoir beaucoup moins de chaleur captée par ces revêtements. Et puis, on est aussi sur un projet européen, un peu d'intérêt général, on va dire, pour développer un revêtement qui sera expérimenté sur les grands axes routiers parisiens, qui sera moins chaud, qui fera moins de bruit. On est sur des expérimentations aussi là-dessus.
Valérie Masson.
Alors, effectivement, à propos des matériaux, en fait, il y a des solutions donc traditionnelles qui existent. Par exemple, en Andalousie ou dans les villages grecs, ce sont des villages blancs qui permettent de refléter une grande partie de l'énergie du soleil et donc, en fait, qui chauffent beaucoup moins que des murs foncés ou des murs noirs. Donc, L'idée, c'est
que des murs roses, pour, puisque vous êtes à Toulouse, la ville rose. Alors, est-ce que la ville rose, elle est plutôt du côté des villes dont les murs sont plutôt chauds ou sont plutôt frais? Quel est l'avantage et les avantages et inconvénients de cette couleur?
Alors, le rose, c'est à mi-chemin. Et bon, les rues de Toulouse sont très étroites. Donc, le soleil, dans le centre-ville ancien, tape assez peu sur les rues. Donc, ça permet de ne pas chauffer tant que ça. Par contre, dès qu'on est dans les quartiers un petit peu périurbains, un petit peu plus modernes, ben, souvent, on pourrait favoriser soit des peintures blanches, soit des nouvelles technologies, des nouveaux matériaux. Là, c'est surtout, par exemple, les Américains qui travaillent là-dessus, sur des matériaux qui gardent la couleur qu'on veut, qu'on peut avoir une tuile foncée, etc., mais qui reflètent quand même une bonne partie de l'énergie solaire et qui donc permettent de ne pas trop chauffer. Donc, c'est ce qu'on appelle les toits froids, ou les cool roofs, ou les parkings froids, les cool pavements.
Et on verra peut-être un jour une ville comme Paris entièrement blanchie pour justement garder un peu de fraîcheur. Comme promis, je reviens vers vous, Céline Philips. Vous vouliez réagir à la question de l'eau.
Oui, mais peut-être pour terminer sur la question des revêtements, c'est vrai que vous l'avez compris, il y a encore beaucoup d'expérimentation à prévoir. Et donc, du coup, à l'ADEME, on organise mardi prochain, j'invite cordialement donc vos auditeurs qui seraient intéressés donc à une journée scientifique où on va essayer de repréciser quelles sont les connaissances dont on a besoin aujourd'hui pour rafraîchir nos villes. Donc il y a eu beaucoup de travaux de recherche déjà conduits maintenant depuis plus de 10 ans sur cette question et il nous a paru important de faire le bilan des acquis, d'identifier les questions de recherche restantes et après tout. Ça fera l'objet d'appels à projets de recherche. On avance petit à petit, on précise quels pourraient être les nouveaux matériaux compatibles avec les villes de demain et aussi avec le climat de demain. Mais oui, je voulais rebondir par rapport à la notion d'arrosage des chaussées. Il y a quand même donc des tentatives d'expérimentation en France. Donc à Lyon, il y a eu une expérimentation d'arrosage des chaussées qui a montré que l'effet de rafraîchissement est très limité. Il y a une portée de quelques mètres grand maximum de fraîcheur. Et donc du coup, pour l'instant, il y a encore un vrai travail à faire pour trouver une façon éventuellement de rendre cet arrosage plus efficace.
Ici à Nice, vous dites, oui.
Ici à Nice aussi, il y a une réflexion autour d'avoir de l'eau qui circule sous les pavés dans les nouveaux quartiers en cours de construction dans la plaine du Var. Donc du coup, oui, il n'y a pas qu'au Japon, ils ont été les premiers, mais il n'y a pas qu'au Japon où on essaye de voir si c'est une solution viable. En France.
En tout cas, ce qui est assez passionnant, on voit en tout cas à travers ce sujet, c'est que on voit que c'est un véritable enjeu, qu'on en est, alors non pas au début, parce qu'il y a un certain nombre forcément de villes qui ont l'habitude de ces grosses chaleurs, peut-être davantage dans des pays du Sud, à l'étranger, mais qu'il y a une vraie réflexion, des techniques qui sont mises au point. Mais il y a un élément qu'on n'a pas abordé, comme il nous reste plus beaucoup de temps, Elsa Mesquel, je voudrais quand même qu'on en dise un mot, qui est la question des ressources existantes et mobilisables aussi peut-être. Alors non pas pour rafraîchir les villes, mais pour trouver de la fraîcheur dans les villes. Il y a par exemple la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, là, qui a demandé aux mairies de faire un recensement des lieux pour les personnes vulnérables, notamment les bibliothèques, notamment les parcs et leur ouverture la nuit, c'est-à-dire au moment où il fait le plus frais.
Absolument, et c'est complètement essentiel. Au sein de la ville de Paris, on travaille là-dessus depuis un petit moment aussi. On s'est doté d'une stratégie d'adaptation au changement climatique en 2015. Et dans ce cadre-là, une des mesures, c'était justement l'ouverture des parcs la nuit. Aujourd'hui, il y a déjà quand même 130 espaces verts à Paris qui sont déjà accessibles, des squares et certains grands parcs 24 heures sur 24. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de parcs qui sont ouverts la nuit. À alors qu'ils ne l'étaient pas. 6 déjà cette semaine en période de canicule, 10 prochainement entre le 1er juillet et le 3 septembre. Donc voilà, et ça c'est des choses qui vont se faire tous les ans en préventif, pas forcément s'il y a une canicule ou pas.
Et puis je voulais pourra bientôt se baigner dans la Seine en
et
plus, non?
Et on pourra sur la place de l'eau, absolument, je voulais rappeler ça, on va ouvrir des espaces de baignade extérieurs, et c'est très important d'offrir ce genre de choses. Et l'ouverture à la piétonnisation des berges de Seine est aussi une formidable opportunité d'offrir des balades un peu plus fraîches aux Parisiens.
Merci beaucoup à tous les trois, Elsa Mesquel, Valérie Masson, Céline Philips. Merci aux équipes de France Bleu à Toulouse et à Nice pour avoir permis cette discussion que vous pouvez réécouter comme chaque jour sur franceculture.fr. À la page du grain à moudre, nous avons commencé avec notre ancien générique, nous terminons avec l'actuel. L'occasion de remercier l'équipe du Grain, Céline Leclerc, Fanny Richer, Sarah Petitbon, Cyril Baer et Louise Fuseau. Émission réalisée par Lise Marie Barret avec à la prise de son Élise Leu. On se retrouve lundi à 18h20 pour poser la question suivante. Le politique réduit-il le temps de la politique ? Sujet Sciences Po.